foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, dans Foi et Tradition, nous allons nous projeter aux confins de l'ancien Empire d'Orient. L'Empire romain d'Orient, bien entendu, en son limès le plus oriental entre l'Euphrate et le Tigre, dans la montagne des serviteurs de Dieu. Je veux parler du Tourabdin, région isolée de Turquie du Sud-Est, où se parle encore une forme d'araméen. Je suis ce matin en compagnie d'Emmanuel Turan. Bonjour.
Bonjour.
Pour nous guider, vous êtes né au Tourabdin vous-même, ensuite vous avez fait une scolarité en France, vos études d'histoire vous ont naturellement porté sur le passé plus ou moins récent du Proche-Orient, avec l'angle particulier des dynamiques internes au sein des chrétientés syriaques. Alors pour que ce soit clair, donc c'est une communauté dont vous êtes vous-même membre. Donc je répète, vous êtes né à Tourabdin, donc cette région du sud-est de la Turquie. Alors c'est une région qui a quand même un caractère extrêmement particulier parce que c'est l'une des dernières, alors j'anticipe un petit peu, excusez-moi, l'une des dernières régions au Proche-Orient où on parle une forme d'araméen ancien. Donc pour simplifier bien entendu, qui est dit-on, était la langue de Jésus et les apôtres. Alors vous allez nous expliquer un petit peu plus de quoi s'agit-il. Alors le Tourabdin, d'abord qu'est-ce que ça veut dire en soi ? C'est un mot qui vient du syriaque, je crois.
Oui, alors le terme Tourabdin veut dire Touros, c'est composé de deux mots, Touro qui veut dire montagne et Abdin qui veut dire serviteur. Alors serviteur doit être, en fait, peut être entendu dans les deux sens. Dans le sens serviteur de Dieu, mais aussi dans le sens serviteur-esclave. Et en fait, le premier sens, sans doute, est plutôt à l'origine le terme de serviteur-esclave, en fait.
Ça veut dire peut-être un sens d'adorateur, en ce sens que les gens étaient tournés naturellement vers l'aspiration divine ou...
Non, en fait, c'est sur, en fait, à partir de certaines sources par rapport à l'Empire assyrien, à une certaine période de... alors, je sais, 5, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, des captifs ont été installés, donc des personnes d'origine esclave, ont été installées dans la région, au milieu de personnes qui étaient d'habitants sur place, araméens, qui étaient déjà dans le Tourabdin. Et donc, et ce... Le terme s'est renforcé avec le début en fait, du monachisme au Tourabdin même, avec le sens du monachisme dans le sens serviteur de Dieu, de celui qui est esclave, qui renonce à ce monde et qui se fait esclave. D'une manière spirituelle.
D'une manière spirituelle, bien entendu, parce que le Tourabdin, donc cette région qui n'est pas très grande, hein, je crois qu'on a quelques kilomètres carrés, non ?
Alors là, si on regarde bien, ça fait quand même la moitié d'un département français.
Oui.
Plus ou moins.
Oui.
Parce que on va dire, si on prend la définition habituelle, il commence... à l'ouest, près des montagnes de Mardin. Et à l'ouest, il est bordé par le Tigre. Et au nord, il est délimité par une ville forteresse qui s'appelle Hasankeyf aujourd'hui, et qui veut dire Hesno de Kefo, c'est-à-dire forteresse de pierre. Et au sud, il est délimité par, par une montagne qu'on appelle la montagne... d'Isla, qui borde en fait, la plaine de la Jézirée syrienne, qui est aujourd'hui syrienne. Et ça fait une sorte de losange qui fait 70 km de l'ouest à l'est et 70 km du nord au sud.
Alors les voyageurs du 19e siècle, qui ont été parmi les premiers à découvrir cette région aux confins de l'Empire ottoman à l'époque, ont utilisé une expression qui me semble assez parlante, le mont Athos de l'Orient, pour signifier justement cette concentration étonnante de monastères dans un aussi petit périmètre.
Alors l'expression, elle est souvent utilisée, mais elle est elle ne correspond pas à la... Je veux dire, elle ne donne pas une description correcte, en fait, du Torah Abdin.
Pourquoi ?
Puisque le... Alors, l'image du mont Athos, c'est un espace qui est uniquement peuplé de personnes qui sont consacrées et qui sont moines. Et donc, ils sont séparés du monde profane, des laïcs. Et c'est une séparation qui est stricte. Et pour pouvoir accéder au monastère, au mont Athos, à l'ensemble de ces monastères, il faut y accéder par une sorte d'échelle. Et tout le monde est, donc c'est un monde qui est relativement fermé et qui est autosuffisant, qui ne dépend pas de, qui est dépend d'aucune, d'aucune autre autorité que lui.
Alors que pour le Torah Abdin,
c'est différent. Alors que pour le Torah Abdin, c'est un ensemble de monastères qui vivent, qui sont étroitement associés aux villages qui sont aux alentours. Et c'est cette symbiose en fait entre les monastères et les villages alentours qui définissent, qui font vraiment la spécificité du Torah Abdin et qui permettent de comprendre les spécificités, les particularités qui le distinguent.
Alors, on dit Torah Abdin, ça désigne un plateau, en fait. C'est un plateau géographique, j'ai l'impression. On est un peu en altitude par rapport au reste de la plaine. Quelques mots sur l'actualité, en fait, et ensuite on remontera un petit peu dans l'histoire. Que reste-t-il de cette présence syriaque, ou disons araméophone, actuellement ?
Alors, le plateau du Torah Abdin constitue, en fait, une sorte de cœur en fait, du pays, on va dire, syriaque. Dans le sens syriaque, c'est-à-dire des populations de confession, je veux dire, syriaque orthodoxe. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'espace dont ils ont, en fait, marqué le paysage, en fait, qui a été façonné, en fait, par les pierres et le paysage a été façonné par, je veux dire, par ces populations. Elles sont là depuis toujours. La plupart des villages importants, et même le centre même du plateau, étaient occupés traditionnellement par les populations chrétiennes. Alors, elles sont devenues minoritaires au fur et à mesure. On peut dire qu'elles étaient majoritaires jusqu'au XVIe siècle et qu'elles sont devenues minoritaires à partir du XVIIe et XVIIIe. Au XIXe siècle, elles représentaient encore 30 à 40% de la population. Alors aujourd'hui, la situation a radicalement changé dans le sens où il ne reste par rapport à la population de départ. Au début des années 70, il y avait encore, on va dire, 30 000 personnes.
Et les chrétiens ont dû partir avec les problèmes de sécurité.
Et aujourd'hui, il y a un ensemble complexe de raisons. Mais aujourd'hui même, la population qu'on peut estimer à 1 500-2 000 personnes.
Alors, il reste des monastères aussi. C'est surtout ça qu'il faut signaler, j'ai l'impression.
Disons, la présence des monastères reste, en fait, la plupart, l'essentiel des efforts communautaires, que ce soit pour les personnes qui sont restées au Torah Abdin, mais également pour tous ceux qui sont originaires du Torah Abdin et qui sont installés pour la majorité en Europe, et qui sont très nombreux, l'essentiel des efforts a été d'essayer de maintenir une présence monastique chrétienne selon la tradition, en voulant perpétuer cette tradition syriaque au Torah Abdin.
Alors, c'est une tradition qui plonge ses racines de manière très ancienne, j'ai l'impression. On a des premières fondations monastiques donc dans ce plateau qui est aux confins de la Syrie, disons, qui est au nord de la Syrie et au sud-est de la Turquie actuellement, dès le 4e siècle, peut-être même avant ou pas ?
Oui. Si on regarde les chroniques et les hagiographies des saints de l'église syriaque, on peut estimer que le plateau était sans doute déjà christianisé avant même l'émergence du monachisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas de récit de conversion. C'est-à-dire les saints qui sont les saints fondateurs de monastères ne sont pas dans les récits hagiographiques dont on dispose, on n'a pas de récit de conversion. Donc, c'est donc des saints qui étaient vénérés par des populations qui ont déjà été en partie christianisées. Je parle pour les saints fondateurs de monastères. Et donc, on peut supposer qu'ils ont subi une christianisation qui est une christianisation du temps où il y a un proto-monachisme, en fait.
Donc là, on est à quelle époque, à peu près ?
Alors là, on est avant le début 4e siècle.
Et début 4e siècle, donc ce qui fait quand même des fondations très, très anciennes.
Oui, alors c'est une particularité, en fait, des communautés chrétiennes, c'est que des communautés chrétiennes de langue araméenne, elles font partie, en fait, d'une vaste culture, et à l'époque, elles sont étendues dans tout le... elles sont présentes en Mésopotamie et aussi en Iran. Et donc, elles ne se définissent pas, c'est-à-dire, elles se définissent plus par, par la notion de culture, ou on va dire en allemand, civilisation. Et donc, elles n'ont pas d'attache de point de vue national, on va dire, par rapport aux populations, on va dire, arméniennes, qui sont les Arméniens, qui sont habituellement vus comme la première nation qui est devenue entièrement chrétienne.
Oui.
Alors, nous sommes dans un cadre légèrement différent puisque ces populations sont de langue araméenne, de culture araméenne, mais elles ne sont pas limitées à un seul espace. Elles sont présentes dans tout l'espace du Proche-Orient, surtout en Mésopotamie et en Iran, et aussi pour une partie de la Syrie, on va dire, orientale.
Alors il faut mentionner aussi la place d'Édesse, la grande ville qui a compté beaucoup pour la culture syriaque et qui n'est pas très loin de Tourabdin.
Alors, il y a deux villes importantes, c'est Édesse et Nisib. Nisib, qui est justement la ville qui est au sud du Tourabdin. Et donc, ces deux villes sont un peu le berceau de la langue syriaque. Donc, c'est donc la langue araméenne qui était parlée dans cette région, qui est devenue la langue liturgique pour les chrétiens syriaques. Et cette langue liturgique est celle, en fait, des églises syriaques qui se rattachent tous à cette origine édessénienne et de Nisib, même si elle se rattache en même temps au tronc antiochien, du point de vue apostolique, elle se rattache à
Antioche, en
à
fait.
Antioche.
Voilà, au passage de Pierre à Antioche, c'est ça la fondation, disons, apostolique de toutes ces églises syriaques. Alors, je mets ça au pluriel, oui, parce qu'il y a beaucoup de traditions, effectivement. Juste un détail, c'est que cette langue liturgique, donc le syriaque classique, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, est devenue aussi une langue littéraire, ensuite, par... c'est des grands écrivains de l'époque. Et est-ce que ça se rattache à Tourabdin ou pas ? Ou alors est-ce que c'est une autre tradition ?
Alors, quand je dis langue classique, c'est une langue qui sert à... c'est une langue littéraire. Donc, qui a été la base de la christianisation pour ces populations. Elle continue... C'est la langue de la liturgie pour l'ensemble des populations syriaques et des églises, quelle que soit leur foi propre. Elle est en usage au sein des monastères syriaques.
C'est la langue de tous les jours, presque.
Non, ce n'est pas la langue de tous les jours. C'est la langue qui est la langue liturgique. Et au Tourabdin, la spécificité, c'est qu'à côté de cette langue liturgique, les populations chrétiennes de la région parlent, dans leur majorité, un dialecte qui est une langue voisine du syriaque, mais qui connaît son propre vocabulaire, ses propres, c'est un dialecte, donc c'est une langue qui a évolué, mais qui a une structure qui est de araméenne, en fait. On appelle ça plutôt un néo-araméen, c'est-à-dire comme le syriaque lui-même, qui est une langue néo-araméenne.
Alors c'est une langue qui est parlée et une langue qui est enseignée aussi, encore, à notre époque.
Alors la particularité au Tourabdin, c'est que c'est la langue liturgique qui fait l'effort, qui est enseignée, en fait. C'est-à-dire, on fait un effort pour apprendre la langue liturgique. Et donc, la langue parlée, celle de tous les jours, elle n'a pas de support écrit. Donc, elle n'est pas apprise, en fait. Donc, au monastère, en fait, dans les monastères, il y a une sorte de combinaison entre les deux. Les règles d'apprentissage se donnent dans la langue parlée, et c'est au fur et à mesure où on fréquente la langue liturgique, bon, de manière traditionnelle, ça ne repose pas sur des méthodes, mais par l'usage quotidien de la liturgie.
C'est par la récitation peut-être que les enfants, que les jeunes arrivent à...
Au départ, elle joue un rôle important. Bon, je parle de manière traditionnelle, hein, c'est ce qui pouvait exister dans les années 50, 60. Mais à partir d'un certain moment, les élèves les plus doués commencent à accéder en fait à une certaine connaissance, et bon, il y a quelques ouvrages qui ont été écrits à l'époque dans les années 50, 60, et qui ont permis en fait qui permettent à ceux qui sont, je veux dire, c'est comme au Moyen-Âge, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de pédagogie très développée, et à un certain moment, donc c'est les personnes qui ont les plus de dons qui sont en fait acquièrent un bon niveau en syriaque et même sont capables d'entretenir une conversation en syriaque.
Alors je rappelle que nous parlons du Tourabdin ce matin. Emmanuel Yılmaz, excusez-moi, vous avez un prénom français et un prénom turc, enfin d'origine. Le Tourabdin est en Turquie, il faut le rappeler, en Turquie du Sud-Est. Alors parfois il y a des conflits identitaires qui doivent s'opposer, bien entendu. Ce qui m'intéresse pour nos auditeurs, c'est de savoir quel est l'imaginaire dans toutes ces communautés syriaques, parce que malheureusement beaucoup de Syriaques vivent maintenant dans la diaspora, donc dans des sociétés complètement différentes. Que représente dans votre imaginaire le Tourabdin ? Est-ce que c'est comme une sorte de Jérusalem, un endroit un peu mythique et imaginé ? Est-ce qu'il y a une envie de retourner, par exemple, à Tourabdin ?
Alors, ce n'est pas en fait une sorte de Jérusalem, parce que une Jérusalem un peu de type céleste, ça suppose une coupure qui aurait déjà été assumée et qui aurait été faite. En fait, c'est un rapport qui reste encore concret pour une majorité de Syriaques. Donc, puisque l'immigration n'est pas aussi ancienne. Donc, elle a commencé dans les années 60. Elle est devenue relativement massive dans les années 70. Et elle a atteint son apogée au début des années 90. Et donc, la plupart des personnes ont une mémoire de leur village. On va dire la plupart des prêtres qui officient en Europe ou des diacres ont eu leur formation dans les monastères sur place. Et donc, une mémoire collective qui est en fait, c'est une vraie mémoire collective qui n'est pas reconstruite. Le point commun de cette mémoire collective, c'est évidemment la référence à l'origine qui est le Tourabdin. Donc, elle a une sorte de Jérusalem dans le sens où c'est un lieu de pèlerinage, en fait.
Parce que moi, à chaque fois que je vois des Syriaques de la diaspora, bon, je résume et caricature un petit peu. Bon, dès qu'on leur parle de Tourabdin, les yeux s'éclairent. C'est comme si c'était un endroit un peu spécial tout de même. Est-ce qu'on peut parler de pèlerinage ? On va en pèlerinage à Tourabdin dans cette région ou pas ? Ou est-ce que ça vous semble trop fort ?
Je ne pense pas. En fait, les monastères de Tourabdin, déjà au sein des populations syriaques, dès avant même le 19e siècle, le Tourabdin était renommé pour ses monastères, justement. Et donc, il attirait les autres chrétientés. Mais là, c'est dans les époques vraiment anciennes. Alors, justement, nous avons un grand écrivain, c'est Philoxène de Mabug, c'est un écrivain du VIe siècle,
Une référence dans
les pays syriaques, après Ephrem et d'autres, il est un des plus grands écrivains syriaques. Il y a eu sa formation au monastère principal du Tourabdin, qui est le monastère de Mor Gabriel. Et justement, il écrit au 7e siècle, que le fait de visiter et de voir l'église de Mor Gabriel équivalait à voir la Jérusalem céleste.
Ah, donc c'est de lui que vient cette tradition,
oui,
en fait.
Oui, voilà.
De, c'est lui qui a lancé le grand mouvement à partir du... Donc, depuis le VIe siècle, on peut considérer que c'est une tradition et devenue une coutume, finalement.
Oui, alors c'est devenu, en fait, une... Aujourd'hui même, ça a été, les monastères du Tour Abdin essayent de, je veux dire, font référence à cette idée pour inviter les gens du Tour Abdin à revenir. Et plusieurs voyages au Tour Abdin, bon, on va dire 4 ou 5, sont considérés comme valant le pèlerinage à Jérusalem. Parce que le pèlerinage à Jérusalem est toujours, en fait, une pratique qui reste encore assez vivace parmi les populations âgées en Europe qui sont originaires du Tour Abdin, puisqu'elles permettent d'obtenir le titre de Mursi, qui vient du... Bon, c'est un terme arabe. L'équivalent syriaque est Ratchoyo, qui veut dire avoir fait le pèlerinage et être passé à Jérusalem.
Donc on est allé à Jérusalem.
Voilà.
Est-ce que vous-même vous êtes retourné à Tour Abdin, donc dans cette montagne des serviteurs de Dieu?
Oui, je suis. Alors, par la force des choses, je devais retourner voir de mes propres yeux et un peu marcher sur cette terre. Et donc j'ai été de nombreuses fois. Bon, pour des raisons de santé, ça fait quelques années que je n'ai pas pu...
Refaire le voyage,
mais j'espère pouvoir retourner bientôt.
Quelles ont été vos impressions quand vous avez revu la maison d'enfance, le monastère, l'église?
Alors, quand je suis retourné, mes maisons d'enfance étaient en ruine, tout simplement. Donc, je les ai vues, mais sans m'y arrêter. Donc, en fait... Pour la plupart des Syriacs, bon, je suis né là-bas, mais quand je suis retourné, je ne me suis pas senti très, très dépaysé. J'ai quand même senti assez comme chez moi.
C'est-à-dire que toute votre mémoire est revenue?
Mais c'est dans le fait qu'on retrouve les populations du Tour Abdin et celles qui sont émigrées et qui sont en Europe. Partagent encore aujourd'hui certains traits, ils ont une langue commune, certaines attitudes qui fait qu'on se sent, on ne sent pas une trop forte coupure.
Et par exemple, est-ce que l'église de votre village était toujours en place?
Oui, alors pour le village de ma mère, qui est un village important du Tour Abdin, et qui a des liens très importants, qui avait des liens historiquement importants avec le monastère de Mont-Gabriel, était encore peuplé, et il reste une vingtaine de familles au village qui s'appelle Psolino.
Une vingtaine de familles syriaques.
Syriaques.
D'accord. Et que vous avez pu rencontrer, la cohabitation se passe bien sur place?
Oui, parce que en fait, là, je vous raconte un peu le récit de mon premier retour sur place, qui était en 1997. Et c'était à une époque qui marquait, en fait, à la fois la fin, le fait que c'était une période très difficile où les combats venaient, les difficultés un peu étaient les plus fortes. C'était à cette période-là.
C'était la période difficile, oui, voilà. Entre l'armée turque et les combattants kurdes. Oui.
Et donc, c'est ce qui explique que c'était un peu un contexte un peu différent. Et l'avenir du Tour Abdin paraissait à l'époque plus incertain qu'il ne l'est aujourd'hui.
Alors que des gens reviennent maintenant, j'ai l'impression.
Oui, il y a un certain mouvement de retour. On voit un retour sur certains villages.
Bon. Merci beaucoup Yılmaz d'être venu jusqu'au micro de France Culture ce matin pour évoquer le Tour Abdin ensemble.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous finissons sur cette touche d'optimisme donc liée au retour de certaines familles syriaques. Je remercie Dany Journaud pour la réalisation de cette émission et Jaizan Taous pour le son. Émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur notre site internet. Et ne quittez pas maintenant l'antenne. Nous retrouvons le service protestant et Michel Schaeffer. Merci.